C'est au cours d'un séjour à Francfort qu'il tombe amoureux de la fille d'un pasteur d'origine française. Elle se nomme Cécile Charlotte Jeanrenaud. Il écrit ce jour-là à Rebecca, sa sœur.
Oh, ma petite sœur chérie, j'aime t'écrire que je suis furieusement amoureux. Je dois à cette fille adorable les premières heures heureuses de l'année. Elle est très jolie. Ses yeux sont bleus comme le ciel du printemps. Et ses cheveux doux et châtains.
Le mariage fut célébré quelques mois plus tard, le 28 mars 1837. Félix retrouve la joie de vivre. Il écrit à cette époque le psaume 42, un quatuor en ré mineur et surtout les 6 préludes et fugues pour piano qui sont parmi ses œuvres les plus connues. Bientôt, son foyer est égayé par la naissance d'un fils, Charles. Il aura 5 enfants en tout. À cette époque, il publie ses célèbres romances sans parole, un merveilleux trio en ré mineur et les variations sérieuses pour piano. Alors commence pour lui une période d'instabilité, de contrariété, de contrainte, auquel sa vie heureuse ne l'avait pas habitué. Prévu par le roi Frédéric Guillaume IV pour diriger la musique à Berlin, il essuie une fois encore des avanies, des contretemps qui l'irritent. Il a le sentiment que les Berlinois ne l'ont jamais aimé ni apprécié. Il est partagé entre Leipzig, où il est le maître, et Berlin, où il voudrait, mais en vain, le devenir. En 1842, le malheur et le chagrin viennent encore l'accabler. Sa mère meurt subitement, comme son père était mort.
Ma mère contenait toujours toute la famille. Quand je lui écrivais, j'avais l'impression de vous avoir écrit à tous.
Félix, à nouveau, trouve dans le travail la consolation de ses peines. Il est récompensé lorsqu'il parvient à créer et à faire ouvrir à Leipzig le premier conservatoire de musique. Dès le second mois, on compte 42 élèves. Il écrit aussi sur commande des musiques de scène pour Antigone de Sophocle, Athalie de Racine et Le songe d'une nuit d'été. Les représentations soulèvent enthousiasme et polémique. Il va pourtant cesser bientôt toute activité musicale à Berlin pour se consacrer à son art. Les tracasseries de ses fonctions ont usé ses nerfs. Il est devenu irritable, susceptible, agressif même. Et sa famille et ses amis s'inquiètent de l'altération de son caractère. Il consacre désormais tout son temps à son grand oratorio, Élie, qu'il dirigera pour la première fois à Londres en 1847. C'est à son retour d'Angleterre qu'un deuil nouveau vient le frapper. Fanny, sa chère Fanny, cette sœur auprès de laquelle il a tout découvert, qu'il aimait si profondément, meurt soudain frappée d'un mal inconnu, alors qu'elle dirigeait les répétitions d'un concert. Mendelssohn est comme anéanti de douleur. Rien ne pourra désormais le consoler. Il part en Suisse avec toute sa nombreuse famille. Il compose là sa dernière œuvre, un quatuor en fa mineur où transparaît la grandeur de sa peine. Il rentre à Leipzig à l'automne 1847. Bien qu'il ne soit âgé que de 36 ans, il apparaît vieilli, fatigué, usé. Sa santé est mauvaise, il doit souvent garder la chambre. Il est devenu silencieux, taciturne. Au début du mois d'octobre, au cours d'une visite à une amie, il est pris d'un violent malaise. On le transporte chez lui. Quelques jours s'écoulent, dominés par des vertiges et des syncopes. Après une brève accalmie, il meurt le 4 novembre, au cours d'une nouvelle attaque, accompagnée de maux de tête intolérables. son frère Paul et son ami le pianiste Moscheles étaient à son chevet. Il était 9h du soir.
Tout ce qui doit être fait doit être bien fait.
Il avait fait de cet adage sa propre devise. Et sa mort elle-même qui est venue le frapper en pleine gloire, sans que son image fût altérée, en est l'illustration. Son grand ami, le compositeur Robert Schumann, écrivit à son propos dans son journal « Le ciel l'enlève dans son plus bel éclat. Il est parti debout et radieux, sans éclipse à sa gloire. N'est-ce pas un bonheur pour un artiste de mourir ainsi ?»